Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Ce volume réunit trois textes attribués à Hésiode. Poète grec archaïque, généralement situé autour du 7e siècle avant notre ère, la Théogonie, les travaux et les jours et le bouclier. Il ne s'agit pas d'un récit continu, mais d'un ensemble poétique qui articule généalogie divine, réflexion sur la condition humaine, conseil agricole et représentation héroïque. La Théogonie ordonne les puissances divines depuis Chaos jusqu'à l'installation de la souveraineté de Zeus. Les travaux et les jours s'adressent à Persès dans le cadre d'un conflit fraternel et fait de la justice. Du travail et du respect des saisons, les conditions d'une vie humaine stable. Le bouclier met en scène Héraclès dans une tradition épique. Cette réunion donne accès à deux faces essentielles de la poésie hésiodique, expliquer l'ordre du cosmos et penser les contraintes concrètes de l'existence mortelle. Elle constitue donc une source majeure pour comprendre les mythes grecs et les valeurs sociales de la Grèce archaïque. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la théogonie organise les généalogies divines en histoire du pouvoir. La théogonie est souvent lue comme un répertoire des dieux grecs. Mais sa logique est plus exigeante, les filiations y rendent intelligible la formation d'un ordre. Des puissances premières surgissent, puis les générations divines se succèdent à travers alliances, rivalités et affrontements. Le monde n'est pas présenté comme immobile ou définitivement harmonieux. Il résulte d'une stabilisation difficile, conquise contre les forces qui menacent l'autorité nouvelle. La succession d'Ouranos, de Chronos et de Zeus structure ainsi le poème. Chaque règne révèle une modalité du pouvoir et les violences qui accompagnent sa transmission. L'accession de Zeus ne vaut pas seulement comme victoire personnelle. Elle établit une répartition des honneurs entre les dieux et une capacité à arbitrer les rapports de force. Cette perspective explique l'importance des unions, des naissances et des listes de divinités qui peuvent déconcerter un lecteur moderne. Elles ne sont pas de simples digressions encyclopédiques, elles inscrivent les phénomènes naturels, les qualités morales et les puissances divines dans un même réseau de parenté. Le poème offre ainsi une cosmologie narrative, où connaître les noms et les origines revient à percevoir comment un cosmos, au sens d'un monde ordonné, se distingue du désordre toujours possible. Deuxièmement, Prométhée et Pandore relient le mal humain à la rupture avec Zeus, les épisodes de Prométhée et de Pandore. Présent dans la théogonie, puis repris sous une autre forme dans les travaux et les jours, occupe une place décisive dans la pensée hésiodique de la condition humaine. Prométhée cherche à tromper Zeus lors du partage sacrificiel et dérobe le feu pour le donner aux mortels. Le feu représente une ressource technique indispensable, mais son acquisition ne signifie pas l'émancipation humaine. Elle déclenche au contraire une réponse divine qui installe durablement la peine et la nécessité. Avec Pandore, les hommes reçoivent un don séduisant et ambigu, associé à la diffusion des maux qui pèsent sur leur vie. Hésiode ne propose donc pas un récit simple de progrès ou de chute. La civilisation humaine, rendue possible par des savoirs et des techniques, demeure inséparable de la fatigue, de la vulnérabilité et de la dépendance envers les dieux. La jarre de Pandore et la place particulière de l'espérance qui y demeure ont suscité de nombreuses interprétations, sans que le texte impose une solution univoque. L'intérêt du passage tient précisément à cette tension. Les hommes ne vivent ni dans une catastrophe absolue, ni dans l'abondance originelle. Ils doivent habiter un monde où les biens utiles ont pour contrepartie le travail, les risques et les limites imposées à leur puissance. Troisièmement, les travaux et les jours font du travail réglé une réponse à la précarité. Les travaux et les jours transforment la poésie en instruction morale et pratique. Son point de départ est le différent entre Hésiode et son frère Persès, auquel le poète reproche de rechercher un gain injuste et de s'appuyer sur des juges corrompus. Toutefois, l'œuvre dépasse largement cette querelle. Elle oppose une richesse obtenue par la prédation ou la faveur à une subsistance construite par un effort régulier. Le travail n'y est pas célébré comme une valeur abstraite, il est la condition concrète de l'autonomie du foyer dans un monde où l'abondance ne vient plus spontanément. Le poème détaille des périodes propices aux semailles, aux récoltes, à la navigation et aux autres activités nécessaires. Ce calendrier n'est pas un manuel agricole au sens moderne, car les observations saisonnières sont étroitement liées à une vision religieuse et éthique de l'existence. Savoir agir au bon moment témoigne d'une compréhension des limites humaines et des rythmes du monde. Le texte valorise donc la prévoyance, la mesure et l'économie domestique plutôt que l'enrichissement spectaculaire, en reliant les gestes agricoles à la stabilité sociale. Hésiode montre que l'ordre collectif dépend aussi de décisions quotidiennes travaillées, conservées. Éviter les querelles ruineuses et ne pas confondre habileté immédiate avec prospérité durable. Quatrièmement, la justice de Zeus encadre les rapports entre individus et cités. Dans les travaux et les jours, la justice ne se réduit pas à une règle morale privée. Elle est une puissance voulue par Zeus, qui concerne directement le jugement des conflits, la conduite des puissants et le destin des communautés. Hésiode en prend au juge qui prononce des décisions biaisées pour obtenir des présents. Ce motif donne au poème une portée sociale nette. Une cité ne souffre pas seulement des aléas naturels, elle peut être atteinte par les conséquences d'une justice dévoyée. À l'inverse, une communauté gouvernée selon le droit bénéficie d'une prospérité plus stable. Cette relation ne doit pas être comprise comme une théorie juridique systématique. Elle exprime une vision archaïque dans laquelle l'ordre humain participe d'un ordre plus vaste, surveillé par les dieux. La figure de Dike, la justice, rend visible la plainte contre les décisions iniques et rappelle que les actes des hommes ne sont pas sans témoins. Le texte associe ainsi responsabilité individuelle et responsabilité collective. Persès est invité à renoncer à l'injustice, mais l'avertissement vise également les détenteurs d'autorité. Cette double adresse distingue Hésiode d'une simple littérature de conseil. Le travail ne suffit pas si les institutions favorisent le tort. La paix domestique, l'abondance agricole et l'équilibre civique exigent ensemble le respect de limites reconnues. En dernier lieu, le bouclier prolonge l'épopée héroïque par une description d'armes et de combats. Le bouclier raconte un épisode centré sur Héraclès et sur son affrontement avec Cycnos, dans un registre proche de l'épopée héroïque. Sa section la plus célèbre développe l'image du bouclier du héros. L'objet est couvert de scènes figurant la guerre, la paix, les divinités, les monstres, les activités humaines et les forces de la nature. Cette technique de description détaillée, appelée ekphrasis, ne suspend pas simplement l'action. Elle concentre, sur une arme, une vision de la violence et de l'ordre du monde. Le bouclier protège Héraclès, mais il porte aussi des représentations de peur, de conflit et de destruction, ce qui souligne la grandeur inquiétante du combat héroïque. L'inclusion de ce texte dans le volume permet de comparer l'univers d'Hésiode à la tradition épique plus directement associée aux exploits guerriers. La question de son attribution demeure discutée par les spécialistes. Le bouclier a été transmis sous le nom d'Hésiode, mais son authenticité intégrale n'est pas assurée. Cette réserve n'enlève pas son intérêt de lecture. Elle invite au contraire à distinguer l'auteur historique, difficile à cerner, du corpus hésiodique formé par la transmission antique. Le texte éclaire la réception d'une manière de faire épique et rappelle que les frontières entre poèmes théogoniques, sagesse agricole et héroïsme n'étaient pas étanches dans la culture grecque archaïque. En conclusion, ce recueil s'adresse d'abord aux lecteurs de mythologie grecque qui souhaitent aller au-delà des résumés modernes et rencontrer une source antique fondamentale. Il convient également aux étudiants en lettres classiques, en philosophie, en histoire des religions ou en histoire des idées politiques. Car les poèmes relient constamment les récits divins aux problèmes de la justice, du pouvoir et de la survie matérielle. Une lecture accompagnée de notes ou d'une bonne introduction peut être utile. Les généalogies abondantes, les noms propres et la forme poétique demandent une attention que ne requiert pas une vulgarisation narrative. Le bénéfice intellectuel est considérable. La théogonie permet de comprendre que les mythes grecs ne forment pas une doctrine fixe, mais un effort poétique pour ordonner les puissances du monde. Les travaux et les jours montrent, avec une précision rare, comment une vision religieuse peut informer l'agriculture, l'éthique du travail et la critique des juges injustes. Le bouclier ajoute une perspective héroïque et visuelle par rapport à d'autres recueils mythologiques. Ce volume se distingue parce qu'il donne accès aux formes mêmes qui ont structuré durablement l'imaginaire grec, au lieu de les réorganiser selon des catégories modernes. Sa force tient surtout à la coexistence de l'immense et du quotidien, la naissance des dieux, la succession des saisons. La violence des conflits et les devoirs du foyer relèvent d'un même ordre fragile. Si vous souhaitez soutenir Hésiode, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.